En amont de la 16e édition du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras qui s'est déroulé le 1er mai dernier, l'association Colère du Présent avait organisé une journée autour des migrants isolés étrangers à l'hôtel de Guine d'Arras et notamment une projection d'un film documentaire réalisé par Rachid Oudji intitulé « J'ai marché jusque chez vous ». À cette occasion, j'ai rencontré deux mineurs étrangers isolés installés dans le parc des Hauts-Lieux à Lille. Et tout en restant anonymes, ils ont accepté d'évoquer leur parcours et nous disent ce qu'ils ont ressenti à la vue de ce documentaire.
Je viens d'arriver à Lille, ça n'a même pas fait deux mois. Et j'ai trouvé la collectif Désolé, c'est une association qui nous aide à savoir notre droit et notre devoir et qui nous aide aussi à participer des cours de français et mathématiques pour savoir bien s'exprimer en français parce qu'il y a d'autres personnes entre nous qui arrivent ici et qui ne comprennent pas le français bien. Et même moi, là aussi, comme ça, je ne comprends pas bien le français, mais quand même, je me débrouille de la manière dont je suis capable de parler, quoi. Et vous voyez. Et nous vivons dans une situation extrêmement difficile, quoi. Et je viens d'arriver à Lille, je ne peux pas raconter toute l'histoire du collectif, mais j'ai entendu parler à des amis qu'il y avait des tentes dans un parc qu'on appelle Hauts-Lieux. Ça se situe à tout près des portes d'Arras, métro des portes d'Arras. Là, on appelle Moulin, et il y avait des jeunes qui passaient la nuit là-bas. Et il y avait un moment que venu, c'était l'hiver. Ils ont expulsé l'endroit, ils ont sassé tous les jeunes. Il y avait beaucoup de personnes qui passaient la nuit dehors, mais jusqu'à présent, ça continue comme ça. Et tu vas voir aussi beaucoup de jeunes qui sont confirmés, qui sont reconnus mineurs par les juges des enfants. Et le département ne respecte pas leur travail. On ne nous place pas là où on doit être placé. Et tu vas voir un jeune qui est confirmé à Lille, on te prend, on t'amène à Dunkerque. Tu restes là-bas jusqu'à ce que tu vas atteindre ta majorité et puis on te met dehors. Tu n'as pas la possibilité d'aller à l'école ni avoir ton référent social et éducateur. Et moi, je ne trouve pas ça favorable pour nous, les mineurs non accompagnés qui viennent de lointains pays. Et...
Mais alors, vous venez d'où exactement? Toi, tu viens de quel pays, par exemple?
Moi, je viens de la Guinée-Conakry.
Tu as quitté ton pays il y a un moment déjà. Tu es arrivé, tu me dis, il y a un mois à Lille. Mais avant, tu as fait un autre parcours. Tu es arrivé par où exactement?
Oui, en fait, j'ai passé par le Mali, puis l'Algérie, la Libye. Je rentrais par l'Italie et lorsque je suis arrivé à l'Italie, on me parlait de l'italien, je ne comprenais pas ça. Et je me suis dit peut-être quand j'arrive en France, comme nous, la Guinée, nous sommes colonies françaises et que j'étais allé à l'école jusqu'en troisième au collège, et je pensais que ça allait être favorable pour moi. Parce qu'une fois que j'arrive en France, je peux me comprendre avec les gens et ça va être favori pour moi, quoi. Mais je suis arrivé ici, je trouve encore les mêmes difficultés que j'ai laissées derrière.
Quand tu es arrivé en France, tu étais tout seul, tu étais accompagné, il y a quelqu'un qui t'a accompagné, après vous êtes séparés ou tu es arrivé, tu t'es débrouillé tout seul?
Non, j'étais tout seul. À travers les gens dans la rue, quand je me rencontre avec les blancs, je les demande où on demande, parce que je viens d'arriver, où on demande pour les mineurs. J'ai un blanc qui m'a montré l'endroit. Je suis allé me rendre là-bas et j'ai fait mon demande. Et on m'a montré un endroit où je peux aller passer la nuit. Après deux jours, on m'a mis dehors. Ils m'ont dit vraiment, monsieur, on n'a pas la possibilité, on n'a pas la solution pour vous. Il vaut mieux d'attendre dans quelque chose de 14 jours, on va vous donner la réponse. J'ai resté, les 14 jours sont arrivés, ils m'ont donné le refit. Ils m'ont dit vraiment, vous êtes venu ici, un mineur non accompagné, vous n'avez pas votre papier et on ne peut pas vous reconnaître comme un mineur. C'est le papier qui va vous identifier comme un mineur. Et j'étais obligé d'aller faire le recours. Il y avait un avocat là-bas, je suis allé me rendre là-bas, j'ai lancé mon recours. Du coup, on m'a reconnu mineur et je restais un mois dehors. C'est la semaine dernière qu'on m'a amené à l'hôtel et je ne trouve pas ça aussi favorable. Normalement, une fois que tu es confirmé, les juges des enfants te confient au département. C'est le département qui doit prendre ton stage, qui doit t'amener à l'école. Et on n'est pas ici pour être vagabond, on est là pour un objectif bien déterminé. On est là pour servir la France. Et ça qu'ils vont savoir, et ils ne sont pas ici banalement. Mais si on vient ici, on nous laisse dehors, on reste là-bas jusqu'à atteindre notre majorité, moi je ne trouve pas ça favorable. Pour avoir les papiers en France ici, moi ce que je viens d'apprendre, et tu dois aller à l'école en première position et tu dois être au foyer ou par des éducateurs et des référents sociaux. Une fois que tu n'as pas ça, tu arrives à avoir 18 ans, tu pars à la préfecture, tu demandes pour le titre de séjour. On te demande, lorsque tu étais mineur, tu faisais quoi? Et maintenant, si tu leur dis que tu passes la nuit dehors, ils vont dire, ah, vraiment, monsieur, nous, on est vraiment désolé pour vous. Vaut mieux d'aller demander asile. Tu te retournes toujours dans le merde. Et moi, je ne trouve pas ça favorable pour nous, les mineurs étrangers non accompagnés. Vraiment, nous, on a besoin de soutien qui vont nous aider pour qu'on puisse aller à l'école et faire des activités comme les autres. Et au lieu de passer la nuit dehors.
Et toi, tu viens de où?
Je viens de la Guinée aussi, j'ai beaucoup de difficultés avant d'arriver, mais il faut reconnaître que quand on est arrivé, ça n'a pas été facile. Parce que dès qu'on a fait nos demandes, ils nous ont pas hébergés ni rien, ils nous ont laissés dans la rue comme ça. Après, voilà, ils nous ont posé beaucoup de problèmes, surtout au niveau de papier. Ils nous ont sorti des prétextes juste pour nous refuser. Et après ça, nous, on fait des recours pour être confinés pour le juge d'enfants. Et voilà, après le recours, quand ça marche aussi, ils tardent à nous prendre. Il y en a d'entre nous qui font plus de 4 mois sans être pris en charge. Et pourtant, nous, si on est là, c'est, voilà, on veut être pris en charge et en même temps aller à l'école parce qu'on veut avoir un avenir. On veut un jour devenir quelque chose. Travail évidemment comme tout le monde, servir la France quoi, en fait. On ne veut pas être dépendant de quelqu'un. On veut avoir aussi un avenir quoi. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Mais après quand on est avec 18 ans et qu'on n'arrive pas à être hébergé, qu'on n'est pas pris en charge par le département et qu'on n'est pas scolarisé, la profession dit, mais pendant tout ça, vous faisiez quoi? Alors que réellement, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu, mais c'est qu'on ne nous a pas donné l'opportunité de le faire. Parce que quand tu n'es pas confirmé, les écoles, surtout les écoles publiques, ils ne te prennent pas. Déjà, le département, ils ont mis la pression sur les écoles pour ne pas qu'ils te prennent. Donc, c'est vraiment pas facile, c'est ce qu'on est en train de vivre, quoi. Et même quand tu es confirmé réellement, tu restes comme ça, les bras croisés, ils ne vont jamais venir envers toi. C'est quand tu appelles, ils vont te dire, monsieur, attendez, il n'y a pas de place pour le moment. Mais quand tu restes comme ça, tu restes comme ça jusqu'à ce que tu aies tes 18 ans. Et là, ils te diront, maintenant, tu n'es plus sous notre responsabilité, quoi. Donc, c'est ce qui est extrêmement grave, quoi, franchement. Moi, je crois que vous, en tant que journaliste, vous devriez beaucoup parler de ça aussi, quoi. Parce que moi, je trouve que depuis que nous, on est venus ici, franchement, les journalistes, ils n'ont pas joué. Si vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas de parler aux journalistes parce que réellement, ils n'ont pas essayé de jouer un rôle par rapport à ça, quoi. Ils nous ont même pas vraiment aidé par rapport à ça, quoi. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment compliqué pour nous, quoi.
On va reparler peut-être du documentaire, vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Moi personnellement, le documentaire, il m'a beaucoup affecté parce que dès que je l'ai vu, je me suis senti dedans dans le film. Parce que c'est à peu près, même si on n'est pas dans le même département ou on n'est pas dans la même ville, mais c'est à peu près les mêmes réalités qu'on vit. Donc ça, moi, ça m'a donné beaucoup d'affection. Ça m'a même donné quelque part un sentiment de désespoir parce que si tu vois ce que ces gens-là vivent, tu te dis que ouais, c'est la même chose aussi que tu vis et donc ça sera pas facile quoi. Vraiment, des situations comme ça ne t'encourage pas quoi. Mais après tout, on a pas le choix, il faut qu'on tienne le coup et grâce notamment à des personnes qui viennent vers nous pour nous permettre de s'exprimer, qui nous apportent leur aide, qui nous donnent des conseils. C'est grâce à des personnes comme ça qu'on obtient de la force et qu'on essaie de ne pas baisser le bras, quoi.
Ouais. Et toi, comment tu l'as vécu, ce documentaire?
Lorsque j'ai regardé le documentaire, ça m'a énormément touché, quoi, au fond du cœur. Parce que moi aussi, j'ai vécu dans la même situation que je vivais. Il y avait des mois passés, on vivait dans la même situation. Mais la semaine dernière, nous, on est allé au département, à Lille, à Triolo, pour se manifester à nos droits pour qu'on nous aide. Parce qu'actuellement, il y a plus de 75 jeunes qui sont dans la même situation que nous. On est venu pour réclamer simplement nos droits, hébergement et scolarisation, et d'être pris en charge. Parce qu'une fois que tu as un jugement, placement éducatif par le juge des enfants, normalement, sur le département, ils vont te confier au département jusqu'à ce que tu vas avoir 18 ans. Et une fois qu'on te confirme au département, les départements, ils sont irresponsables de leur travail. Une fois qu'on arrive là-bas, on leur pose des questions, on y répond par des questions. Parce que je me rappelle, la semaine dernière, j'étais à Triolo, j'ai posé une question à une dame, la directrice territoriale du département du Nord. à Triolo, c'était Madame Leclerc Florence. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, ah madame, quel est le rôle du service social au niveau des mineurs non accompagnés qui viennent de lointain pays? Après, elle m'a répondu, monsieur, vraiment, nous, voilà, on fait ce qu'on peut. On est vraiment désolé de votre situation. Et je leur dis, vraiment, madame, si vous nous prenez à la place de vos enfants, vous n'allez pas nous faire comme ça. Elle me dit, vraiment, monsieur, ça n'a rien à voir dans cette situation. Et ça ne me concerne pas du tout, quoi. Tout ce qui me concerne, c'est de chercher des placements pour vous placer, pour que vous alliez à l'école et avoir l'hébergement et rester ici comme les Français, quoi. Et enfin, elle m'a dit que vraiment, nous, on fait de l'économie, le département fait de l'économie pour ne pas qu'ils vont prendre les enfants, tu vois. Et moi, vraiment, ça m'étonne du tout, quoi, que le département fonde de l'économie, quoi. Et pourtant, la France a signé pour que les étrangers mineurs rentrent ici. Pourtant, une fois que tu arrives ici, tu demandes, le même jour que tu as demandé, jusqu'à les jours où ils vont te donner refus ou bien les jours où ils vont te confirmer, tu seras pris en charge, mais ils vont te laisser, tu vas passer la nuit dehors. Et une fois qu'on te donne refus, tu viens, on te demande de signer une fin de prise en charge. Moi, je ne trouve pas ça normal. Et pourtant, ça trouvera que toi, tu n'as jamais été pris en charge. Ce n'est pas normal du tout. Et on vit vraiment dans une situation décourageante, quoi.
Donc, c'est parce qu'il faut reconnaître que nous sommes là, nous voulons vraiment être quelqu'un demain. Nous voulons faire quelque chose. Parce que si vous voyez qu'on s'efforce de trouver des écoles ou bien de participer à des cours de soutien que des bénévoles viennent donner, c'est parce qu'on a envie. Sinon, vous-même, vous savez, c'est même pas facile d'étudier quand tu es dans cette situation. Quand tu n'as même pas là où dormir, tu pars à l'école, tu reviens, tu n'as pas là où dormir. C'est pas facile d'étudier dans cette situation. Mais nous, on s'efforce de le faire parce que déjà, on a quelque chose en tête qu'une fois que tu as 18 ans, si t'es pas scolarisé, eux, à la préfecture, ils vont pas chercher à savoir si c'est le département qui n'a pas voulu. Ils ne vont jamais chercher à savoir ça. Ils vont rejeter toute la faute sur toi. Alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment pas facile pour nous, quoi. Franchement.
Mais alors, j'imagine aussi que vous avez laissé vos familles là-bas, peut-être, éventuellement. Est-ce que vous avez des nouvelles aussi, de temps en temps, du pays d'où vous venez, donc de Guinée? Comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez quand même à communiquer avec vos familles?
Pour ça, de temps en temps, mais pas à chaque fois aussi, parce que pour communiquer aussi, il faut vraiment avoir des sous, quoi. Donc si on fait rien, on ne travaille pas, on fait rien, on peut pas le faire à chaque fois, quoi, à part quelques fois. Si, évidemment, comme je le parle, les soutiens qui viennent, on leur demande de nous aider à avoir, soit ils nous passent le téléphone ou voilà, de nous aider à avoir au moins par lequel appeler. Donc c'est le plus souvent comme ça qu'on arrive à communiquer, quoi, et ça aussi c'est pas à chaque fois, quoi. Des fois, tu peux faire un mois ou plus de deux mois sans avoir des nouvelles de ta famille, quoi. C'est vraiment dur, quoi.
Au cours de ce temps fort, j'ai également rencontré un réfugié hébergé par le CADA d'Arras, centre d'accueil des demandeurs d'asile. Il revient également sur son parcours et évoque avec une certaine philosophie l'humain qui reste à ce jour le plus important pour accueillir les réfugiés qui fuient leur pays.
T'es arrivé depuis combien de temps? D'où tu viens exactement?
Je suis venu au CADA le 31 mars 2017. J'étais à Cassel avec l'association AFESI. On a été mis à l'abri pour 5 mois. Le mois de novembre 2016 au 31 mars 2017. Donc après les 5 mois, on nous a orienté au CADA de Arras. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis là-bas.
Et donc tu viens de quel pays? Pourquoi tu es parti?
Oh, je viens de la Guinée. De la Guinée-Conakry, exactement. Je suis sorti dans mon pays parce que je suivais des persécutions au niveau de l'autorité, des autorités. Et puis encore, surtout dans mon village aussi, il y avait un problème social. Purement parce que moi et les villageois, on ne s'est pas attendu. Parce que j'avais interdit ma maman l'excision Donc les femmes se sont énervées. Et du côté des parents aussi, ils m'ont dit de faire l'initiation. Donc totalement, je me suis opposé. Quand, après mon emprisonnement, je me suis retrouvé au village. Là-bas aussi, je me suis opposé à toutes les pratiques que moi, je considère que vraiment, c'est pas bon, quoi. Donc c'est dans ce cadre-là, vu ma vie en danger, donc j'étais obligé de sortir au pays et traverser la Méditerranée, venir me réfugier en France. C'était ça.
Et du coup, tu avais un métier là-bas? Tu faisais quoi exactement? Tu étais encore à l'école ou
Oui, avant que je sois en prison, j'étais à l'école. Je faisais la science sociale. Et j'étais l'un des membres de l'association aussi, l'association des jeunes pour le développement socio-culturel. Et à part de ça, j'étais bénévolat aussi avec une ONG, Réception socio-professionnelle des enfants handicapés. Donc j'ai pratiqué ça. Et même pendant la maladie Ebola, j'étais comme volontaire pour sensibiliser les parents, pour sensibiliser la population au propos de la maladie. Et en plus ça, j'ai interprété aussi pour les étrangers qui venaient, parce que je parle l'anglais comme le français, donc j'étais vu pour interpréter le français dans la langue Kissi ou dans la langue Malinké, Bambara, et avec les Anglais aussi qui venaient, qui intervenaient aussi pour la maladie. Donc j'ai collaboré avec eux aussi pour interpréter l'anglais dans nos langues, dans nos différents dialectes. J'avais un métier parce que je me suis arrêté au niveau bac. C'est l'année à laquelle que je devais passer mon bac que j'ai eu des problèmes. C'était en 2012. Donc en 2012 et 2015, j'avais toujours des difficultés comme ce que je vous ai dit depuis au début. C'est après la capitale Conakry, je suis allé pour le traitement au village. Donc je me suis opposé aussi à faire des pratiques. Donc c'est pour cela que je suis là.
J'imagine aussi que toi, tu as laissé des amis là-bas, ta famille, évidemment. Est-ce que c'est facile d'avoir des nouvelles?
Bon, oui. Bon, avec la nouvelle technologie, je me communique avec ma maman, mais qui est présentement en Sierra Leone. Parce que avant que je ne quitte, j'étais obligé de dire à ma maman de quitter le milieu parce que sa vie était aussi en danger. Elle était stigmatisée par ses amis. Et comme elle est d'origine sierra-leonaise, elle est réfugiée, j'étais obligé de rejoindre ses parents en Sierra Leone, d'aller vivre là-bas. Et moi, je vais chercher ma vie ailleurs. Et aujourd'hui, Dieu merci, je me communique de temps en temps avec elle, c'est pas tous les jours parce qu'elle n'a pas l'accès à des téléphones Android. Mais le moment que j'ai des sous, j'achète des unités, je l'appelle en direct, quoi.
Qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce que tu attends de la France exactement? Et en même temps, est-ce que tu veux apprendre un métier ici? Est-ce que tu veux rester ici en France?
Oui, je veux rester en France. Et peut-être que je peux participer au développement de la France demain, soit mes enfants aussi. Parce que je suis tout jeune, j'ai mes 21 ans, un mois. Donc il faut voir. Si une fois que la France m'accepte de rester ici, mais pourquoi pas me marier avec une Française. Et à part de ça aussi, que je souhaite continuer aussi poursuivre mes études, parce que je me suis arrêté au niveau bac. Donc si une fois que la France m'accepte, parce que je suis demandeur d'asile, je peux m'inscrire et continuer aussi mes études au niveau de la science sociale. Donc je pense que ça sera un avenir pour moi. Mais je ne suis pas venu en France parce que c'est par rapport à sa beauté. Je suis venu en France c'est pour me protéger. Et parce que partout il y a la démocratie, il y a le droit de l'homme. C'est respecté, même si ce n'est pas 100%, mais c'est appliqué. Donc je pense que c'est des pays où il faut il faut aller te protéger par rapport en Afrique. Les institutions ne sont pas respectées parce que nous, on ne fait pas confiance à nos institutions parce qu'ils ne sont pas crédibles. Donc il y a l'ingérence, tout. Donc, parce que la Guinée, c'est un pays riche, mais il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, il n'y a rien. Donc tu vois, et moi, si avec l'État arrivait à satisfaire les besoins de la population, construire des écoles, construire des routes, l'électricité et l'eau. Mais on ne peut pas venir, on ne peut pas quitter nos pays. Peut-être on peut suivre de bonnes formations et participer au développement du pays. Mais nous quittons pour faire quoi? Ce n'est pas pour venir faire du vandalisme ou bien faire du malgance en France. C'est qu'on vient pour un objectif. On vient pour se former. On vient pour se sauver la vie. On vient pour venir au secours aussi de nos mamans qu'on a laissé au pays. Mais malgré, on a la nostalgie, on a la nostalgie de nos amis. Mais je pense que l'amitié, partout où tu es, si tu es quelqu'un qui est social, tu peux te faire des amis. Parce que moi, aujourd'hui, en France, j'ai des amis français comme françaises. J'ai rencontré des personnes qui sont sociales envers moi. Donc, je pense que c'est des amis. C'est des parents aussi. Parce que dans notre adage, on dit que quand tu sors, tu peux rencontrer une personne qui est égale à ta mère. Tu peux rencontrer une personne qui est égale à ta sœur, ton frère. Mais tout ça, là, ça vient du comportement. Ça vient de la bénédiction. Parce que quand tu es violent, mais tu ne peux pas être accueilli. Donc moi, aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Je collabore avec des Français. J'ai des amis avec eux. J'ai fait des conférences dans les écoles. Même à l'université de Lille, j'étais en conférence avec des étudiants de Master 2. Donc, on échange des idées. À Cassel, c'était la même chose. Au musée, on a fait l'échange de culture au niveau du musée de Cassel. Donc, je pense que je ne suis pas venu en France pour croiser mes bras comme d'autres pensent. Ce n'est pas ça. On a un projet, mais il faut nous donner l'opportunité de réaliser nos projets. Mais quand on me dit demain, bon, mon ami, il faut quitter en France. Mais où je dois aller? Parce que, d'abord, en quittant chez moi, j'ai mis en tête que la France, la langue nous lie. Et l'histoire nous lie. Quand tu regardes la France, tu regardes l'Afrique francophonie, mais nous sommes des cousins.
On est toujours en compagnie d'un réfugié guinéen hébergé par le CADA d'Arras. Et comme l'entretien a été réalisé juste avant le deuxième tour des élections présidentielles, je lui ai demandé ce qu'il en pensait.
Vous savez, les candidats, ceux qui disent, une fois au pouvoir, ils ne le font pas. Parce que je prends exemple, dans nos pays, nos présidents qui sont aujourd'hui au pouvoir, pendant les campagnes, ils rencontrent des belles histoires. Mais une fois au pouvoir, ils oublient le bas peuple, ils champochent. Et puis ils envoient leurs enfants dans les grandes institutions, dans les pays occidentaux et puis dans les bonnes universités. Donc tu vois, c'est différent à la politique française. Si tu n'appliques pas ce que tu as dit pendant les campagnes, tu es critiqué, il y a toujours, les gens vont te faire rappeler parce qu'il y a la liberté d'expression. Chacun va rencontrer, monsieur, ce que vous avez dit ça, vous avez dit ça. Donc moi, je prie bon Dieu et que la France arrive à gagner, à avoir un président qui peut penser aux étrangers. Parce que si d'autres pensent que les étrangers viennent, ou bien les réfugiés, ou bien soit les migrants viennent pour prendre leur emploi. Ce n'est pas ça le cas. Nous ne sommes pas là pour cela. Chacun a son objectif. Mais on a des objectifs qui sont droits. Parce que ici, les gens viennent, il y a d'autres, il y a leur famille, il y a d'autres, c'est pas parce que c'est leur famille, c'est parce que nous parlons de la même langue. Il y a d'autres qui viennent, c'est pour se protéger. Donc une fois que nous, moi précisément, je souhaite à la France un président qui peut unir la France et que la France soit demain un pays plus puissant encore, parce que c'est la cinquième puissance mondiale. Mais s'il devient première puissance, deuxième puissance mondiale, mais ça ne peut pas se faire si la France n'est pas unie, si la France ne se donne pas la main aux étrangers. La force des États-Unis, il accueille toujours, actuellement, grâce à l'immigration, l'États-Unis est devenu première puissance.
C'était un sujet en compagnie de réfugiés, demandeurs d'asile et mineurs isolés, rencontrés à l'occasion d'une journée organisée par l'association Colère du Présent dans le cadre de la 16e édition du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras.